Rendez-vous avec l'économie, une émission de Choc FM 105.1. Votre animateur, Jean-François Parent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 12e émission de Rendez-vous avec l'économie. Ici Jean-François Parent et vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1. Que de choses se sont passées au cours des derniers jours. Et il serait lassant, bien entendu, de passer individuellement sur chacun des sujets en profondeur. C'est pourquoi, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais, pour bien débuter cette émission, faire une petite ronde éclair sur les sujets qui ont marqué l'actualité économique au cours de la dernière semaine. Allons-y de plein fouet. Tout d'abord, quelques notes sur la notion de la littératie financière, un enjeu de plus en plus pressant, surtout chez les jeunes. On le rappelle, l'augmentation de la littératie financière est l'une des priorités de l'actuel gouvernement de l'Ontario. Et cette nouvelle va dans ce sens. Au menu, le lancement d'un nouvel outil d'évaluation des programmes de littératie financière au Canada. Cette nouvelle nous provient du site spécialisé Secteur Établissement que plusieurs d'entre vous connaissent sûrement. Prospérité Canada, l'Association des banquiers canadiens, ou ABC, et l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ou ACFC, ont lancé un outil en ligne destiné à aider les organisations à évaluer leurs programmes de littératie financière. Offert tant en français qu'en anglais, cet outil donne aux organismes publics, privés et communautaires œuvrant dans le domaine de l'éducation financière une plateforme gratuite et facile à utiliser pour concevoir leur propre questionnaire d'évaluation. Donc, cette nouvelle pourrait intéresser le monde communautaire, francophone et anglophone ici à Toronto. L'outil d'évaluation des programmes de littératie financière met à la disposition des organisations une base de données regroupant des résultats et des indicateurs factuels dans le domaine de la littératie financière. Cet outil oriente les utilisateurs à travers une série de questions portant sur leur programme de littératie financière et leurs objectifs d'évaluation, avant de leur suggérer les échelles, ensemble de questions et les questions individuelles les plus appropriées dont ils pourront se servir. Un exemple concret que je pourrais donner, c'est le programme Mes finances, mes choix de Desjardins pourrait faire appel à cet outil d'évaluation de programme. Citation. Nous sommes vraiment enchantés par le lancement de cet outil. Les éducateurs dans le domaine de la littératie financière disposent désormais de mesures rigoureuses et d'une aide pratique en vue d'évaluer leur programme, a précisé Mme Elisabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. Un bassin commun d'indicateurs factuels nous permettra de commencer à utiliser des mesures identiques et au fil du temps, de commencer à évaluer l'efficacité de diverses méthodes d'éducation financière. Fin de citation. Par ailleurs, les petites organisations qui ont peu ou pas d'expertise dans le domaine de l'évaluation de programmes peuvent parfaitement se servir de l'outil qui s'avérera également une ressource inestimable pour les évaluateurs chevronnés. Les objectifs facilités par cet outil sont, en d'autres mots, rendre plus simple, plus rigoureuse et plus probable l'évaluation des initiatives de la littératie financière. De deux, orienter les bailleurs de fonds et les organismes de prestation de programmes vers des résultats des indicateurs factuels communs. Ceci peut donc intéresser tant le gouvernement de l'Ontario que d'autres organismes qui sont bailleurs de fonds. Et numéro 3, utiliser les résultats tangibles d'études actuelles afin de raffermir les programmes en cours et futurs. Autre citation. Le secteur bancaire au Canada soutient depuis longtemps les efforts axés sur l'amélioration de la littératie financière des citoyens et des citoyennes, ainsi que le travail accompli dans ce sens par des organismes communautaires à l'échelle du pays, a affirmé en d'autres mots M. Terry Campbell, président de l'Association des banquiers canadiens. Grâce à ce nouvel outil d'évaluation, les éducateurs dans le domaine de la littératie financière seront en mesure d'évaluer les résultats de leur programme et de veiller ainsi à obtenir l'effet désiré. Nous sommes ravis de notre collaboration sur cette initiative avec Prospérité Canada et l'ACFC, disait M. Terry Campbell. Fin de citation. Pour poursuivre sur cette tangente, Prospérité Canada a mené le développement de cet outil du recueil des indicateurs en consultation avec des praticiens dans le domaine de la littératie financière et d'un comité consultatif composé de représentants de l'ABC et de l'ACFC, d'autres évaluateurs internationaux dans le domaine et des principaux intervenants. Le développement de l'outil a été financé par l'Association des banquiers canadiens, bien entendu. Dernière petite citation sur ce dossier. Cet outil permet d'évaluer les programmes de littératie financière partout au pays, a dit Mme Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière du Canada. L'évaluation est un élément essentiel pour améliorer les problèmes de la littératie financière. Nous voulons nous assurer que l'éducation financière soit efficace et qu'elle ait des résultats désirés. L'ACFC se réjouit de ce genre de collaboration car elle aide à de nombreuses organisations qui travaillent avec acharnement à améliorer la littératie financière des ménages canadiens. Fin de citation. Et il y a de nombreux programmes d'augmentation de la littératie financière qui de plus en plus est surtout axé vers les jeunes. On a mentionné précédemment Mes finances, mes choix de Desjardins, mais il y en a une panoplie d'autres sur le marché. Cet outil que j'ai mentionné précédemment est accessible sur le www.outildévaluation.org et place le Canada à la fine pointe mondiale des techniques d'évaluation des programmes d'éducation financière. Ceci conclut donc notre première nouvelle. Autre nouvelle maintenant, cette fois-ci du côté non pas de la littérature financière, mais de la littérature financière. La publication du rapport sur les perspectives économiques à long terme de l'Ontario, un document fort intéressant pour ceux et celles qui voudraient en apprendre sur les investissements faits par le secteur public et le gouvernement de l'Ontario. Publié par le ministère des Finances, il y a de cela à peine quelques jours, le document de 186 pages est disponible en ligne, gratuitement, pour ceux et celles à qui cela intéresse. Une belle petite lecture de chevet. Le rapport fournit une évaluation à long terme de la situation économique et financière de l'Ontario et il inclut, entre autres, une description des changements prévus dans l'économie et le profil démographique au cours des 20 prochaines années, une description des retombées éventuelles de ces changements sur le secteur public et la politique budgétaire de l'Ontario au cours de cette période, et finalement, une analyse sur les enjeux financiers clés qui, de l'avis du ministère des Finances, sont susceptibles d'influencer sur la viabilité à long terme de l'économie et du secteur public. Des enjeux financiers qui nous touchent d'ailleurs beaucoup ici à Toronto. En faisant des prévisions quant au contexte économique et financier de l'Ontario, le gouvernement peut prendre des décisions à long terme. Les décisions prises au cours des prochaines années prépareront la province à saisir les occasions et à relever les défis, qui sont d'ailleurs majeurs, des décennies à venir. Même s'il est impossible de faire des prévisions précises, il est utile d'évaluer les grandes tendances qui façonneront le contexte socio-économique et financier de l'Ontario. Ces tendances, qui sont multiples, englobent certaines que je mentionnerai comme suit. Une population vieillissante et affichant une croissance plus lente en Ontario et dans de nombreuses autres parties du monde. Et de deux, un rythme de croissance économique potentiellement plus lent dans de nombreuses régions de la province en raison du ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre. De trois, une croissance de l'échange de services continuant à dépasser l'échange de biens. Numéro 4, l'augmentation des emplois atypiques, notamment les emplois à temps partiel et à court terme. On pourrait parler ici des services comme Uber, Airbnb, etc. Et 5, les provinces et les territoires feront face à d'importants défis financiers à long terme, alors que la situation financière du gouvernement fédéral devrait devenir plus viable et s'améliorer durant la même période. L'économie de l'Ontario est déjà en train de se transformer en réaction à ces facteurs à long terme. La concurrence mondiale a mené la restructuration du secteur ontarien de la fabrication, qui a augmenté sa production de pointe. Le secteur des services s'approprie également de nouveaux marchés grâce à l'innovation dans la conception de produits et de services à la clientèle. De nombreux services sont de plus en plus échangés à l'échelle internationale. La prospérité future de l'Ontario repose après tout sur un nombre accru d'entreprises qui produisent à la fois des biens et des services et qui continuent à saisir les occasions sur le marché mondial et pas juste régional ou pan-canadien. La province apporte son soutien en aidant les entreprises à prendre de l'expansion pour livrer la concurrence à l'échelle internationale et augmenter les exportations. Ce rapport tient compte notamment de ces facteurs qui auront une incidence profonde pour l'Ontario entre 2016 et 2040, qui est dans le fond la période examinée par ce rapport. Et examine également leurs répercussions sur les perspectives économiques et financières à long terme. Le rapport, pour ceux et celles qui s'intéressent, est divisé en 4 chapitres et donne un aperçu des plus importants défis et enjeux auxquels l'Ontario pourrait faire face, ainsi que des mesures que prend le gouvernement pour aider la province à se préparer en fonction de l'avenir. Le rapport ne porte pas sur des questions que la province considère à court terme, comme par exemple le logement abordable, les prix de l'électricité ou la voie vers l'équilibre budgétaire. Et on se rappelle que les prix de l'électricité ont fait couler beaucoup d'encre durant les derniers mois. Ceci pourrait faire éventuellement l'objet d'une publication séparée. Pour plus de détails, pour lire le rapport ou pour émettre vos commentaires et suggestions auprès des rédacteurs et rédactrices du rapport, visitez le site web du ministère des Finances de l'Ontario. Finalement, autre nouvelle cette fois-ci en provenance de Desjardins qui publia dans son envoi électronique le 15 février dernier, et je cite, « Un important changement de garde s'annonce à la Réserve fédérale. Vous en avez sûrement entendu parler. » On y lit, plus précisément, la récente démission du gouverneur de la Réserve fédérale, ou la Fed, qui était pour les plus intimes, Daniel Turullo, ne marque que le début du changement de garde auquel on assistera à la Fed. Rappelons que le comité de politique monétaire américain est composé de 12 membres. 7 d'entre eux sont des membres du conseil des gouverneurs de la Fed, y compris la présidente et le vice-président. Les 5 autres sont des présidents et des banques régionales de la Fed. Ces derniers sont nommés par un conseil d'administration respectif de ces banques. Et en revanche, les 7 membres du conseil des gouverneurs sont nommés par le président lui-même des États-Unis et confirmés par le Sénat. Au moment où Donald Trump a pris ses fonctions le 20 janvier dernier, 2 postes de gouverneur étaient vacants. Cette situation s'est produite en 2014 avec le départ des gouverneurs Sarah Bloom, Raskin et Jeremy Stein avant la fin de leur mandat. Les objections de certains sénateurs républicains aux nominations de l'ancien président Obama ont empêché ce dernier de pouvoir désigner des remplaçants à ces postes. Maintenant que le président est républicain et que le parti contrôle les 2 chambres du Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, il pourrait y avoir moins d'embûches pour regarnir le Conseil des gouverneurs. Avec le départ de Daniel Turullo, Donald Trump aura la possibilité de sélectionner 3 nouveaux gouverneurs. Cela va toutefois plus loin. La présidente de la Fed, Janet Yellen, ainsi que son vice-président, Stanley Fischer, ont des mandats de gouverneur expirant en 2024 et en 2020, respectivement. Toutefois, ils ont aussi des mandats distincts pour leur rôle de président et de vice-président. Le mandat de Janet Yellen expire dans 1 an, en février 2018 pour être plus précis, alors que celui de M. Fischer expire en juin 2018. Si le président Trump choisit de ne pas renouveler leur mandat pour ces rôles, ils peuvent théoriquement demeurer sur le conseil pour terminer leur mandat de gouverneur. Cependant, il est plus courant de voir les personnes qui occupent ces rôles quitter la Fed après coup, tout simplement. Dans un tel scénario, d'ici 2 ans, on peut envisager un conseil des gouverneurs composé de 5 nouveaux membres, tous choisis par Donald Trump, et peut-être même si Lael Brainard ou Jerome Powell décident de quitter, ça pourrait être même plus. Et que dire des implications de ce changement de cap pour la Réserve fédérale? La composition du Conseil des gouverneurs de la Fed pourrait changer radicalement au cours des prochains trimestres. Les opinions de Donald Trump sur la Fed et la politique monétaire ont été plutôt évasives, peut-être dû à un manque de compréhension, mais ça reste à déterminer. Ce qui a été plus clair jusqu'à ici est un dédain des préceptes économiques conventionnels, ainsi qu'une volonté de déréglementer le tout. Comment cela tiendra-t-il ses choix pour les dirigeants de la banque centrale la plus puissante au monde? Ça reste encore un peu imprévisible. Chacune de ces nominations constituera une occasion pour les investisseurs d'évaluer la manière dont s'orientent les principes directeurs de la politique monétaire américaine, ainsi que son rôle réglementaire. Sans l'ombre d'un doute, il y a fort potentiel de volatilité sur les marchés tout au long du processus de renouvellement de la Fed, et ceci pourrait en fait amener une déstabilisation des marchés, tout simplement. Et il y aurait bien plus à ajouter sur le sujet, mais malheureusement, le temps presse. Je regarde ici le compteur et je me dois donc de mettre un léger point d'arrêt sur ce bloc de discussion. Nous nous laissons donc quelques instants pour une courte pause et au retour, la suite de Rendez-vous avec l'économie. Vous êtes sur les ondes de Choc FM à la 12e émission de la première saison de Rendez-vous avec l'économie, 105.1, et de retour après la pause. Rendez-vous avec l'économie, chronique. Vous êtes sur les ondes de Choc FM, de retour à Rendez-vous avec l'économie. Histoire de démarrer ce nouveau bloc de la conversation en beauté, J'aimerais continuer la conversation que nous avions eue précédemment au sujet d'une ronde éclair de nouvelles et d'actualités économiques et sociétales en tout genre. Dans les derniers jours, après tout, bien des choses se sont déroulées. Une nouvelle en provenance de Desjardins pour poursuivre sur la tendance que nous avions précédemment au bloc 1 de l'émission, portant sur la courbe du rendement cette fois-ci. Une notion qu'on pourrait revenir éventuellement dans une chronique de vulgarisation, mais je m'écarte un peu du sujet. Le titre du document en question, la réserve fédérale paraît encore hésitante. Ce dernier va comme suit. Quelques faits saillants pour débuter. Après une forte augmentation au cours des derniers mois de 2016, les taux obligataires évoluent sans tendance claire depuis le commencement de 2017. Le taux américain de 10 ans, qui avait frôlé les 2,6% à la mi-décembre, fluctue et ainsi généralement dans une fourchette allant de 2,30% à 2,50%. L'absence d'un signal clair que la Réserve fédérale ou la Fed, comme on l'a mentionné précédemment, poursuivra son resserrement monétaire en mars limite les pressions haussières sur les taux obligataires. L'environnement économique demeure généralement favorable alors que les indices de confiance et les indices des directeurs d'achat ont atteint des niveaux très encourageants dans plusieurs économies avancées, dont ici même au Canada. Les données réelles américaines sont toutefois moins convaincantes alors que la croissance économique a faibli au quatrième trimestre de 2016 et que rien ne permet d'écarter des craintes d'un ralentissement supplémentaire au premier trimestre de 2017, à l'image de ce qui a été souvent observé au cours des dernières années. La croissance de l'emploi a bondi aux États-Unis en janvier et même ici au Canada, mais les pressions salariales ont faibli quelque peu. Dans ce contexte, le marché n'évalue qu'à environ 25% de la probabilité d'une hausse des taux directeurs américains au mois de mars. Le communiqué de la rencontre du début février n'a envoyé aucun signal, mais certains dirigeants de la Fed semblent vouloir garder la porte ouverte à un resserrement. La composition du FOMC cette année, alors que les membres les plus pressés de monter les taux directeurs l'an dernier ont cédé leur place à des dirigeants qui paraissent plus patients, et l'absence d'annonces claires, précises et concises concernant les baisses d'impôts de la part de la nouvelle administration américaine pourrait inciter la Fed à la patience. Mais tout ça reste à voir. La remontée de l'inflation et les résultats économiques satisfaisants en Europe, de leur côté, laissent entrevoir que les politiques monétaires européennes ne seront pas assouplies davantage. La Banque du Japon, pour sa part, est dans une situation similaire, mais elle devra peut-être agir pour revoir ou défendre sa cible sur les taux obligataires de 10 ans. La Banque d'Angleterre, quant à elle, pourrait même devoir remonter ses taux directeurs plus vite que ce qui est présentement anticipé si la poussée de l'inflation se poursuit et que la croissance économique demeure solide. Les taux obligataires canadiens, quant à eux, ont suivi de près l'évolution des taux américains au cours des derniers mois. La publication de statistiques économiques encourageantes au Canada semble faire croire à certains investisseurs que la Banque du Canada, ou BDC, pourrait imiter la Fed et remonter ses taux directeurs d'ici quelques trimestres. Le gouverneur Poloz a toutefois clairement indiqué que lors de la publication du rapport sur la politique monétaire de janvier, que la situation canadienne a été bien différente de celle des États-Unis et que la présence de nombreux risques liés entre autres aux politiques américaines gardait sur la table la possibilité d'une baisse supplémentaire des taux directeurs. La possibilité, c'est le mot-clé, bien entendu. Ces faits très intéressants amènent Desjardins à proposer les scénarios économiques suivants. En fait, il y en a deux. Le premier va comme suit. L'évolution récente du marché obligataire est conforme à nos scénarios, ou du moins au scénario de Desjardins, qui misait sur la consolidation au cours des premiers mois de 2017. Il faudra toutefois surveiller de très près la Fed alors qu'une hausse des taux directeurs dès la rencontre de mars pourrait entraîner une autre poussée des taux obligataires. Pour le moment, le scénario de Desjardins pour 2017 de deux hausses des taux directeurs américains de 0,25% environ, soit en juin et en décembre, et prévoit une hausse également modeste des taux obligataires, ce qui demeure toutefois plus probable. Le deuxième scénario envisagé, plus spécifiquement au Canada, les dernières communications de la Banque du Canada confrontent la prévision émise par Desjardins d'un statu quo de la politique monétaire jusqu'à tard vers environ 2018. L'évolution constatée des politiques monétaires nord-américaines devrait se traduire par un élargissement des écarts entre les taux obligataires canadiens et américains, particulièrement pour les plus courtes échéances. Fin de citation. J'espère que vous avez compris la distinction un peu entre les deux scénarios proposés. Nous gardons un œil de très près sur ces scénarios, idée de savoir si ces derniers se concrétiseront au fil des prochains trimestres ou si des surprises nous attendent au fil du temps, du moins jusqu'en 2018. Je m'écarterai un peu des taux obligataires et de ces scénarios pour me diriger vers une autre nouvelle maintenant. On poursuit notre ronde éclair et cette fois-ci, nous portons vers le côté des exportations canadiennes. On sait que la région Toronto est l'un des moteurs économiques de la nation et que les exportations en matière première, en matière de marchandises, de biens, de produits ou de services, toutes catégories confondues, sont essentielles à la bonne santé économique du pays. Mais les choses, en fait, semblent ralentir. En effet, on note une forte baisse des importations au quatrième semestre, soit là de la fin de l'année 2016 jusqu'au début de l'année 2017. Ces chiffres ont été rendus public le 7 février dernier. Quelques faits notoires, là, juste pour vous donner une idée. La valeur des exportations de marchandises a augmenté de 0,8% en décembre après un gain de 5,1% en novembre. L'essentiel de la progression du mois de décembre provient des produits énergétiques qui ont bénéficié d'une importante hausse de prix. En excluant, bien entendu, les produits énergétiques, les exportations affichent plutôt une baisse de 2,1%, alors que plusieurs secteurs ont subi le contre-coup de la forte augmentation du mois de novembre. Autre fait notoire, la valeur des importations de marchandises a augmenté plus rapidement que les exportations, soit de 1%. Et finalement, le solde du commerce international de marchandises s'est légèrement détérioré en décembre dernier. Il est passé de 1 milliard de dollars à 0,9 milliard de dollars. En fait, Benoît P. Durocher de Desjardins, que vous connaissez peut-être, qui est l'économiste en chef, ajoute en guise de commentaire au document qui a été publié à ce sujet. Et je cite, « Avec les données du mois de décembre, il est maintenant possible de faire un bilan du commerce international de marchandises pour l'ensemble du quatrième trimestre. Exprimé en termes réels, les exportations affichent une hausse de 2,9%, en grande partie grâce à une progression de 30,4% dans les produits énergétiques seulement. » Les autres secteurs ont plutôt connu une baisse de 4,3% durant le trimestre. Du côté des importations, maintenant, un recul de 15,3% est répertorié pour le quatrième trimestre, c'est-à-dire à la fin de l'année 2016. Cette forte baisse a entraîné une importante amélioration du solde commercial qui est passé de 3,7 milliards de dollars de 2007 au troisième trimestre à 9,4 milliards de dollars au quatrième trimestre. Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que la contribution du commerce extérieur à la croissance économique au quatrième trimestre soit fortement positive, probablement aux alentours de 4,5%. Par contre, la diminution des importations signale une importante baisse des investissements non résidentiels. Rappelons rapidement que ces résultats un peu extrêmes constituent un retour à la normale après les fortes perturbations au troisième trimestre causées par l'importation d'un module provenant de la Corée du Sud destiné au projet pétrolier Hebron à Terre-Neuve et Labrador. La contribution positive du commerce extérieur devrait donc en grande partie être contrebalancée par une contribution négative des investissements non résidentiels. Ainsi, la croissance du PIB réel au quatrième trimestre devrait être somme toute très modérée, soit légèrement inférieure à 2%. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir la publication pour le premier trimestre de 2017, voir si on peut faire une analyse comparative de la transition entre le quatrième trimestre et le premier trimestre de 2017. Et qu'est-ce que cela implique-t-il au juste pour en matière, dans le fond, de commerce extérieur et d'exportation et d'importation? Monsieur Durocher poursuit sur cette tangente. Au-delà des perturbations temporaires affectant la répartition de la croissance économique au sein des différentes composantes du PIB réel, les résultats du commerce de marchandises témoignent d'une certaine fragilité de l'économie canadienne. Il est notamment préoccupant de constater que les exportations hors énergie éprouvent encore d'importantes difficultés, ce qui remet à l'avant-scène toute la problématique des pertes de part de marché des entreprises canadiennes aux États-Unis notamment. Évidemment, il n'y a rien dans ces résultats pour assurer la Banque du Canada quant à la vitalité des exportations canadiennes, toutes catégories confondues. Voilà qui conclut cette citation. Et si, pour terminer un peu cette ronde éclair, si vous avez des nouvelles ou des suggestions à nous faire parvenir, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez nous faire parvenir un courriel ici à la station ou encore laissez-nous un message sur nos médias sociaux. Nous sommes avides d'informations et de scoops en matière d'économie et de société. On se laisse bien entendu pour une courte pause et au retour, d'autres sujets passionnants à rendez-vous avec l'économie. Vous êtes sur Choc FM 105.1, vibré en français à Toronto. Allez et à tout de suite. Rendez-vous avec l'économie, chronique. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 et vous êtes de retour à Rendez-vous avec l'économie, avec votre animateur Jean-François Parent. Lors des précédentes émissions, j'ai à quelques reprises entrepris une petite section de vulgarisation afin de faire connaître à nos auditeurs et nos auditrices quelques termes courants utilisés en économie, en affaires, en finance et dans l'actualité en général, ou encore des personnages qui ont marqué l'actualité ou encore l'histoire de l'économie. Je voudrais bien entendu poursuivre sur cette tangente qui est maintenant devenue tradition ici à l'économie, à l'émission Rendez-vous avec l'économie, et vous faire part aujourd'hui de probablement l'un des personnages les plus connus et qui a influencé profondément tous les penseurs et les acteurs du monde économique et financier. Que ce soit du simple analyste travaillant ici sur King et Bay à Toronto, au professeur dans l'une de nos chères universités, que ce soit UFT, York, Ryerson ou autre, au chef de l'une de nos cinq grandes institutions financières ici à Toronto, que ce soit à Desjardins à Montréal ou encore au simple lecteur de ses ouvrages, il n'a pas laissé personne indifférent. Je veux bien entendu parler de nul autre que Adam Smith. J'avoue que je pensais à cette chronique depuis longtemps. Lançons-nous donc directement dans le cœur du sujet parce qu'on a beaucoup de terrain à couvrir. Adam Smith, et oui, ce cher auteur, qui est né le 5 juin 1723 et mort le 17 juillet 1790, est un philosophe et économiste écossais de la période des Lumières. Période qui, on le rappelle, a vraiment bouleversé les idées jusqu'à aujourd'hui. Il est considéré dans l'histoire comme nul autre que le père de la science économique moderne, dont l'œuvre principale, publiée en 1776, année de la Révolution américaine, et La richesse des nations, est l'un des textes fondateurs du libéralisme économique et qui a profondément influencé le cours de l'histoire des États-Unis, du Canada, de la région de Toronto et de bien d'autres régions du monde. Ancien professeur de philosophie morale à l'Université de Glasgow en Écosse, il consacra 10 années de sa vie à ce texte qui inspira les grands économistes qui ont suivi dans ses pas, allant bien entendu de Karl Marx à bien d'autres auteurs. Karl Marx, en fait, les appelait les classiques et ses ouvrages poseront les grands principes du libéralisme économique et de plusieurs des théories dérivées. La plupart des économistes considèrent Smith comme le père de l'économie politique. Pourtant, certains comme Joseph Schumpeter ou Murray Rothbard l'ont défini comme un auteur mineur, considérant que son œuvre comportait peu d'idées originales et que ces dernières étaient beaucoup plus fausses que vraies. À noter que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée. Je considère selon moi que Smith est effectivement le père de la science économique moderne et qu'on lui doit beaucoup. Petit détour par son enfance, rapidement, Adam Smith est né à Kirkcaldy. Dès sa naissance, Smith est orphelin du côté de son père. Ce dernier, contrôleur des douanes, meurt seulement 2 mois avant la naissance de son fils. Tragédie donc pour le jeune Adam Smith qui, à l'âge de 4 ans, et tenez-vous bien, ceci est une drôle d'anecdote, est enlevé par des bohémiens, mais qui prennent peur lorsqu'ils voient son oncle qui avait la garde du jeune Smith les poursuivre, l'abandonne sur la route où il sera retrouvé un peu plus tard. Toute une histoire. Élève particulièrement doué dès son enfance, bien que distrait, Adam Smith part étudier à Glasgow à l'âge de 14 ans et y reste de 1737 à 1740. Il y reçoit, entre autres, l'enseignement de Francis Hutcheson, le prédécesseur d'Adam Smith sur la chaire de philosophie morale à l'université. Et Smith sera entre autres très influencé par Hutcheson. Ayant obtenu une bourse destinée en partie à former le clergé anglican écossais, il part étudier à l'université Oxford, mais cela ne lui plaît guère. C'est pourquoi il retourna assez rapidement vers sa terre natale. Choisissant bien entendu une carrière universitaire, Smith obtient à l'âge de 27 ans seulement, et ça c'est assez remarquable, la chaire de logique à l'université Glasgow et plus tard celle de philosophie morale. Le corps enseignant apprécie peu ce nouveau venu qui sourit pendant les services religieux, qui est un grand ami déclaré de David Hume. Pourtant, Smith devient relativement connu à Glasgow où il participe à des cercles d'intellectuels. Il est apprécié de ses étudiants. Ses manières et son allure peu communes lui valent d'être imité. Un peu une rock star de son époque. Et on voit même des petits bustes de lui dans certaines librairies de la ville apparaître à l'époque. Une rock star du monde économique. Assez impressionnant. En 1776, après y avoir consacré plusieurs années, Smith publie son traité d'économie politique, celui qui va faire sa renommée et qui l'intitule « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », titre souvent abrégé à « Richesse des nations seulement ». On y fait encore référence de nos jours, plus de 241 ans plus tard. Bien que connu de son vivant pour ses œuvres de philosophie, la postérité a surtout retenu son talent d'économiste. Les sciences économiques l'ont très rapidement élevé au rang de fondateur de la discipline. Le courant libéral, autant économique que politique, en a fait un de ses auteurs de référence. Qu'y a-t-il dans la richesse des nations qui justifie une telle postérité, une telle gloire, une telle des tels débats au fil des années? Paradoxalement, Adam Smith n'a apporté presque aucune idée nouvelle à la philosophie, à l'économie dans son ouvrage. C'est l'ironie de la chose. La plupart de ses idées ont déjà été approchées par les philosophes et les économistes de son époque, comme François Quesnay, John Locke, William Petty, David Hume, et qui, on le rappelle, il entraînait des relations très amicales, Turgot ou encore Richard Cantillon. En fait, la richesse des nations mentionne plus d'une centaine d'auteurs auxquels sont empruntées les différentes analyses, les différents points de vue, les différentes opinions. En fait, ce qui donne toute sa valeur à l'œuvre de Smith n'est donc pas tant son originalité, mais plutôt la synthèse de la plupart des idées économiques pertinentes de son temps. Il fait en d'autres mots une somme complète de la pensée de son temps sur la chose économique. La plupart des auteurs qui l'ont précédé ont développé des idées brillantes, mais distinctes de tout système global cohérent. C'est un peu sans dessus-dessous et souvent associé à d'autres conceptions économiques beaucoup moins pertinentes. Et Smith vient corriger ces erreurs monumentales qui ont été faites a posteriori, évidentes, des auteurs qui l'ont précédé. Il approfondit largement leurs idées et les lie entre elles pour tisser une compilation cohérente. Son mode de pensée repose souvent sur le principe suivant. Pour Smith, ce qui est sage pour le chef de famille ne peut être une folie dans la gestion d'un empire ou d'une nation. En fait, avant Smith, les économistes avaient proposé deux grandes définitions de la richesse. Le tout relatif à la richesse des métaux ou des pierres précieuses qui finançaient les guerres, les projets d'un empire ou d'une nation. Mais Smith vient changer tout cela. Pour Adam Smith, la richesse de la nation, c'est l'ensemble des produits qui agrémentent la vie de la nation tout entière. C'est-à-dire toutes les classes et de toute leur consommation. L'or et la monnaie ne constituent donc plus la richesse en tant que telle. Ils n'ont même aucune autre utilité que celle de l'intermédiaire de l'échange. Et il rejoint en ce sens la vision de la monnaie proposée par Aristote dans l'Antiquité il y a plus de, en fait, 1500 à 1600 ans avant l'écriture de son texte. Pour lui, l'origine de la richesse est le travail des hommes. Il repose ainsi sur la base de la doctrine de la valeur-travail, qui sera pleinement théorisée au siècle suivant par David Ricardo. Cette richesse, comment est-elle produite et comment peut-on l'accroître? En tentant de répondre à ces questions, Smith propose une analyse ni plus ni moins complète de la croissance économique pour son époque. Il analyse l'économie de son temps. Il distingue trois grandes causes de l'enrichissement des nations qu'on pourrait qualifier de division du travail, accumulation du capital et la taille du marché. Et voilà tout son génie. C'est sur quoi tout repose. Simple, moderne et droit au but. L'œuvre d'Adam Smith est quasi immortelle. Ces principes sont la base encore de nos systèmes d'échange actuels et, comme je l'ai mentionné précédemment, plus de 241 ans plus tard. Voilà. J'espère que vous répartez un peu mieux outillé après cette conversation, que vous comprenez l'importance de Adam Smith et son rôle dans la construction de notre conception moderne de l'économie. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez des précisions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous à la station. On va être heureux de vous transmettre des références et des lectures intéressantes sur le sujet. Il y a une vraie mine d'informations à découvrir en ligne comme en librairie. Et comme chacun des sujets que nous abordons ici à Rendez-vous avec l'économie, nous vous encourageons à discuter de ces thèmes qui sont abordés, soit avec votre famille, vos conjoints, vos proches, vos collègues, etc. Histoire de débattre et de mieux comprendre ce qui se passe dans nos collectivités à l'heure actuelle, rien ne vaut mieux que le dialogue, l'échange d'informations et le débat. Voilà, on se laisse le temps d'une courte pause et au retour, d'autres sujets passionnants à Rendez-vous avec l'économie. Je crois que le dernier bloc de la conversation va être réservé à la section annonces communautaires. Vous êtes donc sur les ondes de Choc FM 105.1, vibré en français à Toronto. De retour après la pause. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio 100% francophone de Toronto, avec votre animateur Jean-François Parent. En guise de légère conclusion à cette émission de Rendez-vous avec l'économie, qui a été un peu dans toutes les directions, j'avoue, cette semaine, quelques petites annonces communautaires, provinciales, régionales et nationales. Nouvelle pour le monde des enseignants et des enseignantes de la région du Grand Toronto et des alentours, pour les parents et les élèves du secondaire âgés entre 16 et 25 ans, cette nouvelle est destinée pour vous. Le Conseil de la coopération de l'Ontario offre désormais en partenariat avec Desjardins le programme de littératie financière « Mes finances, mes choix » que j'ai mentionné au premier bloc de cette conversation. Ce programme d'éducation financière est destiné aux jeunes des milieux secondaires, le tout en français, et adapté à la réalité des franco-ontariennes et des franco-ontariens. À la fin de ce programme, le jeune adulte de 16 à 25 ans sera en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeur pour lui-même en tenant compte des différentes options, tout en visant l'autonomisation financière. Loin du cours magistral, Mes finances, mes choix utilise une approche participative et dynamique afin de développer et maintenir l'intérêt des jeunes par des stratégies pédagogiques variées qui suscitent leur implication dans les activités. Ce programme de formation, offert dans les écoles secondaires, se donnant en atelier d'une durée approximative de 2 heures, est complètement gratuit. Le CCO et Desjardins fournissent tout le matériel, que ce soit les manuels, les boîtes à outils, les exercices, pratiques, etc., ainsi que le formateur. En fait, je suis un formateur accrédité par Desjardins. En plus d'être adapté au curriculum de l'Ontario, ce programme cadre parfaitement avec la priorité du ministère de l'Éducation de l'Ontario, soit l'augmentation de la littératie financière chez les jeunes. Lancé à l'automne 2016 dans le nord de l'Ontario, le CCO souhaite maintenant développer la livraison du programme dans la grande région de Toronto. Pour plus de détails et pour faire une requête auprès de votre école ou pour avoir des renseignements sur le programme, si vous êtes un enseignant ou une enseignante ou un membre des conseils scolaires de la région du Grand Toronto, n'hésitez pas à contacter l'équipe du CCO au bureau de Toronto au 416-364-4545 ou par courriel à info@cco.coop. Je répète, le 416-364-4545 ou par courriel à info@cco.coop. Et maintenant, une nouvelle un peu plus locale pour les gens du monde des affaires, de la gestion de projet ou de l'analyse financière, cette nouvelle est destinée à vous. Du 15 au 18 mai prochain se tiendra la conférence Project World Business Analyst World au Metro Toronto Convention Center et ce sera l'occasion d'entendre des conférenciers de renom internationaux, d'échanger lors d'ateliers et de rencontrer des leaders du domaine de la gestion de projet, de la gestion de programme, de l'analyse d'affaires ainsi que de l'intelligence d'affaires, ce que l'on nomme en anglais Business Intelligence. De plus, la conférence célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Une occasion donc à ne pas manquer. La période pour s'inscrire est maintenant ouverte et profitez des rabais d'inscription en avance dès maintenant. Mais faites vite car les places sont limitées et pour plus de détails, visitez le www.pmbaconference.com. Conference avec un S à la fin. Et voilà qui conclut notre dernier bloc de conversation pour cette semaine. Merci énormément de votre écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des soucis, des opinions, des inquiétudes, des idées ou des points de discussion, ou si vous aimeriez tout simplement obtenir plus d'informations sur l'un des sujets abordés dans le cadre de cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Visitez notre site web au www.chocfm.ca et suivez-nous sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube et autres. Choc FM, vibrer en français à Toronto. À la semaine prochaine et à très bientôt. Alors voilà, c'était Rendez-vous avec l'économie, une émission proposée sur Choc FM 105.1 avec votre animateur Jean-François Parent. Retournez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.